Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
10h26 en direct évidemment sur Europe 1. C'est l'heure du journal de la culture. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et vous débutez ce journal évidemment par la disparition, Hélène, d'une légende du cinéma français, Michel Piccoli.
Je vois mon derrière dans la glace.
Oui.
C'est trop joli mes fesses.
Oui. Très.
Connu le mépris avec Brigitte Bardot. D'ailleurs, Brigitte Bardot témoigne, il avait du talent, de l'humour et il aimait mes fesses. La France est orpheline pour Gilles Jacob, un monument du théâtre et du cinéma pour l'Académie des Césars. Et tu étais si délicat, tendre et honnête, confie Emmanuel Béart. Le monde culturel pleure la disparition d'un génie. Michel Piccoli est décédé le 12 mai à l'âge de 94 ans des suites d'un accident cérébral. Sa famille l'a annoncé hier dans un communiqué. 176 longs métrages, 49 pièces de théâtre, 33 courts-métrages. Il a tourné pour les plus grands, Godard, Moretti, René, Sauté, Demy, Hitchcock et bien évidemment Buñuel. Alors on peut citer Le Mépris, Journal d'une femme de chambre, Les choses de la vie, Belle de jour, Habemus Papa, mais tant d'autres. Michel Piccoli qui aimait déclarer « Je suis tombé dans un bouillon de culture, j'ai eu de la chance » et qui définissait le métier d'acteur de la manière suivante. Le métier d'acteur, métier bizarre, envié, incompris, insondable, incongru.
Et puis, hasard de l'actualité, un livre qui était sorti il y a quelques semaines, Piccoli, derrière l'écran, c'est aux éditions Alary, et c'est une biographie signée par Anne-Sophie Mercier. Voilà pour l'hommage d'une légende du cinéma français. Tout autre chose à présent, l'exposition Raphaël va bientôt rouvrir ses portes en Italie.
Un événement mondial suspendu suite à la crise sanitaire. L'exposition devait se dérouler du 5 mars au 2 juin, organisée à l'occasion du 500e anniversaire de la mort du peintre. Alors c'est officiel, elle rouvrira ses portes le 2 juin et restera ouverte jusqu'au 30 août 2020. Une prolongation est possible. Ça se passe aux écuries du Quirinal à Rome. Les horaires d'ouverture seront élargis, ça sera de 9h à 22h. Les mesures sanitaires seront mises en place évidemment pour l'accueil des visiteurs. 200 œuvres seront exposées, dont 120 de Raphaël. Le Louvre, le Musée du Prado à Madrid ou encore la National Gallery de Londres ont prêté des œuvres pour cette exposition. C'est le plus grand événement jamais consacré au peintre italien.
Et c'était d'ailleurs hier la journée internationale des musées et les nouvelles sont hélas moins réjouissantes.
L'UNESCO et le Conseil international des musées ont publié hier un bilan de la crise sanitaire. 90% des musées ont dû fermer leurs portes, ce qui représente 85 000 établissements. Pour les deux organisations, 13% des musées pourraient ne jamais rouvrir à cause des pertes économiques. Les professions liées aux musées pourraient être impactées. Dans certains cas, comme en Afrique, 5% des musées seulement ont pu proposer des contenus en ligne. Dans ce rapport, l'UNESCO et le Conseil international des musées jugent impératif de lever des fonds de secours d'urgence et de mettre en place des politiques de protection des professionnels et des travailleurs indépendants en contrat précaire.
On passe maintenant à la musique, Hélène, l'Olympia qui s'invite chez vous, chez nous.
Un événement qui sera diffusé le 9 juin sur C8, C-Star, Canal+, Afrique et le 21 juin sur Olympia TV. De nombreux artistes comme Patrick Bruel, Thomas Dutronc, Benjamin Biolay, Dadju, Claudia Capeo et bien d'autres encore se produiront sur la scène mythique de l'Olympia sans public ou alors dans des lieux assez secrets de la salle de spectacle et les coulisses. Notamment, tous ces artistes se succéderont pour interpréter leurs chansons dans des règles sanitaires très strictes et des conditions totalement inédites. Le but de cet événement, récolter des fonds pour Emmaüs France. La programmation complète du concert sera bientôt dévoilée.
Et là, je dois dire que c'est quand même la nouvelle de la semaine. Le rappeur Booba se lance dans la fabrication de masques.
À destination du personnel soignant, il a décidé d'utiliser les stocks de la première collection de sa marque de vêtements pour en faire des masques. Alors il a publié une vidéo sur Instagram où l'on voit donc les tissus découpés, assemblés, cousus de couleur noire ou motifs militaires. Ils seront distribués aux soignants. Booba, qui depuis le début de la crise sanitaire utilise sa notoriété pour se mobiliser également auprès des personnes les plus fragiles.
Voilà, j'aimerais bien avoir un masque, Carice, et quand tu veux à la baston. Merci beaucoup Hélène Manarino, je vous dis à demain.
Merci à vous. À demain.
Dans un instant, on va recevoir le comédien Philippe Lelouch pour la pièce L'Invitation, sera ce soir sur M6. Il joue un personnage complètement barré qui s'appelle Charlie, mais je vais le laisser raconter. Mais d'abord, musique, Louis Chédid et son nouveau titre aux airs de flamenco, Si j'avais su, sur Europe 1.
Culture Média, Philippe Vandel.
S'en fait des Philippe. Bonjour Philippe Lelouch.
Et comment il va, Philippe Vandel?
Mais il va hyper bien. Et Philippe Lelouch, comment qu'il va?
Bah, tout pareil. Il a eu le Covid-19 il y a longtemps, donc il l'a eu de manière très light, donc tout
c'est
va bien.
C'est pas vrai, racontez.
Oh bah rien, bah non mais rien, comme je le souhaite à tout le monde presque, c'est-à-dire une espèce de pseudo-rhume, même pas qui oblige à être alité, enfin voilà, un truc ridicule, mais qui fait qu'on est, c'est derrière en tout cas pour l'instant.
Et vous l'avez transmis à votre entourage, comment ça s'est passé?
Ouais, la question... on l'a tous eu, voilà, ça a duré deux semaines de rien, ouais. Vraiment de rien, moi je fais pas partie des gens qui ont été touchés.
Ouais, ça fait plaisir, et vous avez fait des tests?
Oui, bien sûr, des tests pendant et des tests après qui disent vous êtes immunisé, voilà.
Voilà, alors Philippe Lelouch est comédien, il est immunisé, mais il est également présentateur télé, présenté Top Gear sur RMC Découverte, qu'on est déjà à la saison 5 ou 6, je ne sais jamais, on va en dire un mot.
7.
7,
c'est
voilà.
La 7e.
Super,
ouais.
Voilà. Et vous êtes à l'affiche de la pièce L'Invitation avec Gad Elmaleh, ça passe ce soir sur M6 à 21h. C'est une pièce contemporaine signée Adrien Raca. Elle était déjà passée en direct le 1er janvier sur M6, ça avait cartonné. 3e des audiences, 3 millions de téléspectateurs. Le Parisien ce matin vous met 3 étoiles et titre Dîner de con en amoureux. Et Philippe Lelouch, pardon de le dire, le con c'est vous. Ça raconte quoi?
Bah, ça raconte un type qui trompe sa femme et qui donc s'est inventé un ami imaginaire pour avoir un motif de sortir et de répondre au téléphone. Donc il a mis un... Dès que sa maîtresse appelle, il met Charlie en disant c'est mon pote qui m'appelle.
Ouais.
Et sa femme, au bout d'un moment, exaspérée par l'omniprésence de Charlie dans la vie de son mari, lui dit bah, invite-le à dîner.
Ouais.
Et là, ça devient compliqué parce qu'il n'existe pas. Donc il va au bistrot d'en face et il engage un type, moi en l'occurrence, qui va jouer le rôle de son meilleur ami toute la soirée. Sauf qu'évidemment, les deux types ont tellement rien à voir l'un avec l'autre que ça va y aller vénère avec les quiproquos. Quoi.
Ouais. Donc vous êtes Jeff et non pas Charlie. Et vous devez vous inventer un passé. Gad, alias Daniel, vous a fait répéter ce passé inventé avant l'arrivée de son épouse. En gros, vous arrivez à 20h et l'épouse arrive à 20h30, elle s'occupe du dîner. Mais une fois qu'elle est là, l'épouse... Elle pose évidemment la question fatidique.
Alors racontez-moi, comment vous vous êtes rencontrés?
Alors. Ça c'est tellement, mais oui. Tellement le genre de rencontre que,
ah oui,
que tu veux raconter ou je raconte?
Non, je raconte. Bon ben, vous allez voir Catherine, c'est quand même un petit peu une longue histoire.
Hein. Non, en même temps, pas si longue que ça. C'était, tu sais, chérie, pour les obsèques de Simone.
Ah bon?
Ouais.
Son ancienne secrétaire.
Oh, la mémoire!
Elle est morte. Du coup, ils l'ont enterrée, du coup. Mais elle voulait pas, hein? Ils ont dit quoi?
On entend que le public du Théâtre de la Madeleine rit énormément, et vous-même aussi, parfois. Ouais. Parfois, vous êtes à deux doigts du fou rire avec Gad Elmaleh. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à cette pièce? C'était le rôle ou d'abord jouer Gad, dont j'ai appris, je ne le savais pas, que vous faisiez la première partie à Lyon il y a plus de 20 ans.
Ouais, c'est ça. On est copains depuis plus de 20 ans, mais sans jamais avoir imaginé travailler ensemble, parce que ça ne s'était jamais présenté.
Ouais.
Et un jour, je lui dis, écoute, j'ai trouvé une pièce. Tu veux pas qu'on la produise ensemble? Au départ, c'était ça, parce que Gad était tellement occupé et à ce moment-là, en plus avec sa tournée américaine, que pas une seule seconde, je peux penser qu'il va la jouer. Et puis on l'a lu tous les deux. Pour savoir à qui on allait la confier, à la fin de la lecture, il me dit « Non mais Philippe, on va la jouer ensemble ». C'est parti comme ça. Donc c'est sa décision qui m'a entraîné. Quoi.
Alors il faut dire que la pièce a cartonné, vous étiez complet tous les soirs, et c'est assez rare pour être signalé, parce qu'il y avait les gilets jaunes quand même. Donc voilà.
Ah, les gilets jaunes, la réforme des retraites, non, on a tout eu.
Ouais.
Mais on a beaucoup de chance. Mais qu'est-ce qu'on a été remercié par le public, vraiment, ça a été dingue. Et puis maintenant, par les Molières, c'est génial.
Ouais, vous en avez tout aux Molières? Non, vous n'êtes pas récompensé aux Molières.
Ah bah, les Molières, ils font comme si on n'existait pas, mais ça c'est normal.
Ouais, c'est un classique, on est en France, hein, vous le savez. Hein.
Voilà, c'est ça.
Autre extrait, on va entendre un moment avant de passer à table.
Allez les enfants, à table. J'espère que ça vous plaira, Charlie, c'est un tourneau de Rossini.
Oh, ouais, voilà. C'est super. De toute façon, vous savez, moi, du moment qu'il n'y a pas de viande... Hein...
Charlie?
Oui?
C'est un tourneau de Rossini.
Ah bah, très bien.
Oui, mais le tourneau de Rossini, c'est...
C'est trop bon!
Il n'y a pas un moment où ça va s'améliorer?
Non, la bêtise ne s'améliore pas. Je ne peux pas raconter la fin, je peux juste dire qu'il y a un sacré twist. En janvier dernier, Philippe Lelouch, je vous laissais entendre que vous allez peut-être vous remettre au One Man Show sur les conseils de Gad, justement. Vous avez eu deux mois pour écrire. Qu'est-ce que vous avez fait?
Rien, j'ai rien branlé, Philippe.
C'est pas vrai.
Mais d'une force. C'est-à-dire, mais je crois, je vais emprunter une formule que j'ai entendue à je ne sais plus quel artiste qui n'était pas français d'ailleurs, je crois,
ouais.
Et qui disait j'ai pas tellement envie d'avoir de souvenirs de cette période empoisonnée. Et c'est un peu mon cas, c'est-à-dire que cette période-là est pas propice au travail, d'abord parce qu'on est influencé quand on écrit par tout ce qui se passe autour à ce moment-là, et que c'est tellement une période inédite et pas dans le bon sens. Que non, j'ai rien fait. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé de rien foutre pendant 2 mois. Voilà. Et j'avoue qu'on y prend vite goût. Hein.
C'est-à-dire
qu'il y a quand même. Hein, voilà.
Ah, d'accord. Non, je me marre parce que c'était en janvier. Vous disiez quoi qu'il arrive, je dois me mettre à écrire en février. Soit j'écris une nouvelle pièce de théâtre.
Ça, c'est moi, hein.
Soit je prends le risque de me lancer dans ce one man show. Donc bim, vous avez rien fait. Top Gear saison 7. Vous avez vu comment je suis informé. Il va se passer quoi pour la saison 7?
Bah, on sait pas trop. On sait déjà qu'on va pas beaucoup voyager à l'étranger.
Ouais.
Là, on espère commencer les tournages. Normalement, on les a commencés depuis un mois ou deux, mais avec le confinement, j'ai pas besoin de vous expliquer.
Mm-hmm.
Donc là, on attend les dates où on va pouvoir aller tourner en équipe réduite. Mais de toute façon, ce sera pas à l'étranger cette année. Donc on attend ça avec impatience, mais on va faire avec les moyens du bord. Mais moi, je pense que dans la contrainte, il y a toujours des vertus. Voilà. Donc on va trouver des trucs qui vont être marrants à faire, j'espère.
Et puis, il faut que je dise, pour qui ne connaît pas, Top Gear, c'est une émission où des types essayent des bagnoles, des types complètement déjantés. Ça se passe sur RMC Découverte. On recevait Élise Lucet tout à l'heure. C'est vrai que vous avez été journaliste envoyé spécial sur France 2. Vous avez dit ça pour faire joli.
Non, c'est vrai.
Vous faisiez quoi comme sujet?
J'étais journaliste, j'en ai tourné plusieurs. J'ai même travaillé à reportage sur TF1 et après envoyé spécial.
Ouais.
Et envoyé spécial, le sujet dont je suis obligé de vous parler, qui était vraiment loin d'être le sujet le plus compliqué à réaliser, mais qui m'a fait changer de carrière, c'est que j'avais tourné un documentaire pour à l'époque Naon et Benjamin qui s'appelait Les Stars du Karaoké. C'était à l'époque où le karaoké venait d'arriver en France.
Ouais.
Et j'avais été tourner des gens qui consacraient leur vie à chanter.
D'accord.
Voilà. Et c'est pendant ce tournage-là que j'ai rencontré celle qui a changé ma carrière, qui s'appelle Danielle Guin, qui était une agente de cinéma et qui m'a dit tu te trompes de métier, tu devrais faire ça. Voilà. En gros, c'est ça. Je fais une carrière un peu court, mais c'est ça l'idée.
D'accord. Merci beaucoup Philippe Lelouch. Je suis très content de cette anecdote karaoké. Je l'avais pas. Maintenant, je l'ai. Je suis un autre homme. Vous êtes à l'affiche de la pièce L'Invitation avec Gad Elmaleh. C'est ce soir sur M6 à 21h et on espère vous entendre très vite pour Top Gear. À bientôt.
Je vous embrasse.
Culture Média qui continue. Dans un instant, on retrouve notre premier indispensable du jour avec Clément Le Saffre. Il va nous parler de 2 jeux vidéo, dont un qui parle de déménagement. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Premier indispensable du jour avec vous, Clément Le Saffre. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors avec le déconfinement, c'est le retour des soirées entre amis, en respectant évidemment les gestes de barrière, on le rappelle. Mais dans votre univers, Clément, ça veut dire le retour des soirées jeux vidéo.
Bah oui, quel plaisir. Enfin, on peut se revoir pour faire une petite partie. Et ça tombe bien, puisque 2 jeux sont parfaits pour jouer à plusieurs. Et ils viennent tout juste de sortir. Hein. 2 jeux qui ont en plus un autre point commun. Ils simulent la vraie vie, mais en y ajoutant une grosse dose de fun.
C'est le retour des Sims.
Alors c'est un peu l'idée, hein. Les Sims c'était en 2000, on a vu beaucoup de choses depuis dans ces jeux qui simulent notre vraie vie. Donc c'est le concept, hein. On a en gros des tâches très simples. Par exemple, le premier jeu donc s'appelle Good Job comme bon travail, et qui se passe dans cet endroit merveilleux qu'on appelle l'entreprise. On y joue le fils du PDG d'une grande boîte, parachuté par son père en tant qu'homme à tout faire en bas de la chaîne. Pour monter en grade, on est chargé de mener à bien tout un tas de tâches très basiques, hein. Apporter un vidéoprojecteur en salle de réunion, trier les colis au service courrier ou encore arroser les plantes. Alors, en apparence, tout ça n'a rien de bien fun, je vous l'accorde. Ouais. Sauf que, eh bien, Good Job est très arcade, limite cartoonesque. En fait, le personnage que l'on incarne est incroyablement maladroit, une sorte de Gaston Lagaffe du jeu vidéo. Et surtout, eh bien, la physique est un peu particulière dans ce jeu puisque les meubles et les objets sont aussi légers qu'une plume.
Et en quoi ça rend le jeu plus fun?
Mais l'objectif, c'est d'accomplir votre tâche en cassant le moins de choses possible. Hein. Ça paraît logique,
ouais.
Mais avec des meubles qui risquent de se casser dès qu'on les frôle, bah, ça complique forcément les choses. Donc très vite, on abandonne l'objectif, hein, car finalement, bah, c'est tellement plus marrant de tout casser. Et il y a en plus aucun risque de se faire virer puisque bah, on est le fils du patron.
C'est génial.
On va pas se faire virer. Donc tout ce qui compte, c'est de remplir l'objectif le plus vite possible. Seule la note finale qu'on aura dépend des dégâts qu'on a causés, mais un vilain dé n'empêchera pas de progresser vers le niveau suivant, pas du tout. Donc on peut s'amuser. Si je reprends l'exemple du vidéoprojecteur, vous pouvez bien sûr le trimballer précautionneusement dans les couloirs en faisant bien attention à chaque bureau. Mais c'est tellement plus drôle d'utiliser un fil électrique tendu entre 2 prises pour le propulser littéralement à travers les murs façon catapulte.
Mais si après il marche plus, on s'en fout.
Exactement.
Donc vous dites c'est encore mieux à plusieurs, c'est ça?
Absolument, on peut jouer à 2 à Good Job, hein, avec la même console. La façon de jouer reste la même. C'est un bon moyen de s'amuser avec un pote en semant le chaos et la destruction dans une entreprise. C'est un vrai exutoire. Et petite précision, Good Job est disponible en exclusivité sur la Nintendo Switch.
Et je me souviens que Gaston Lagaffe, il avait un pote, c'était Jules de chez Schmitt d'en face. Donc ils étaient 2. Votre deuxième jeu, Clément?
Alors on va passer du du travail au déménagement. Autre tâche en apparence très ordinaire, mais rendue bien plus fun par Moving Out. Moving Out, ça veut dire déménager en anglais. Donc le jeu est disponible sur la Switch, la PS4, la Xbox One et sur PC, bref, partout. C'est un peu le même principe que Good Job, mais appliqué donc au déménagement. Il faut tout simplement récupérer un certain nombre de meubles et d'objets dans une maison et les embarquer dans votre camion. Donc là encore, on est incité à aller vite en faisant le moins de dégâts possible. Il faut respecter le client. Sauf que le temps imparti est très, très, très court. Et en portant un à un les cartons par la porte d'entrée, faut être honnête, on ne s'en sort pas. C'est impossible de finir les niveaux. Mais ça tombe bien, votre entreprise de déménagement couvre la casse. Elle vous assure surtout. Donc le tout avec beaucoup d'humour dans les dialogues, comme cette belle maxime énoncée par le patron. N'hésitez pas à balancer les cartons, le sol les rattrapera.
Et donc on peut faire n'importe quoi.
Bah oui, littéralement. C'est littéralement la pire entreprise de déménagement du monde. On peut absolument tout tenter. Par exemple, dans une maison à étage, vous allez vite vous rendre compte qu'au lieu de descendre les cartons un par un dans l'escalier, bah, c'est quand même bien plus pratique de briser les fenêtres pour lancer les cartons dans le jardin. La télé arrive cassée dans le camion, bah, pas de problème, ça marche quand même. Là aussi, c'est validé. Tout est bon pour terminer la mission. Il n'y a quasiment pas de règles éliminatoires. Et Moving Out est encore plus jouissif à plusieurs. On peut y jouer jusqu'à 4. Et c'est même indispensable en fait, de jouer à plusieurs si vous voulez obtenir toutes les médailles d'or, par exemple. Seul, vous ne pouvez que traîner les gros meubles, type canapé
normal.
Ou frigo, comme
dans la
vraie vie.
Un déménagement,
exactement. Donc, si vous êtes à 2 ou à 3, bah, le canapé, vous pouvez le prendre et le balancer par la fenêtre sans problème. C'est vraiment de la coopération bien pensée. C'est très drôle, vraiment parfait pour jouer entre amis. Vous allez adorer déménager ou plutôt dévaster les 30 maisons de Moving Out.
Merci beaucoup, Clément Le Saff. Dans un instant, on va parler cinéma avec Mathieu Charrier, avec des films à huis clos. Mais d'abord, musique avec le chanteur Pofu et le titre Deathbed sur Europe 1. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Je vous reconnais bien là, on est à peine déconfiné, que vous voulez déjà nous reconfiner avec des films en mode huis clos.
Oui, 3 films à huis clos. Je vais commencer par l'un de mes préférés dans sa mise en scène, notamment 12 hommes en colère, premier long métrage de Sidney Lumet. Alors je vous rappelle l'histoire. Un jeune homme modeste est accusé du meurtre de son père. Il risque la peine de mort et comparaît donc devant un jury composé de 12 hommes. Il faut prendre une décision à l'unanimité et on est, nous, enfermés dans le secret des délibérations. Premier tour de vote, 11 estiment qu'il est guilty, coupable, un seul qu'il est innocent et il va chercher à convaincre les autres.
Bon, 11 ont voté coupable. Qui vote non coupable ? Un seul, merci. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on va faire ?
Eh bien, vous expliquez.
Bon sang, bon sang.
Vous croyez qu'il est innocent ?
Bon sang, c'est toujours comme ça.
Tout le monde votait coupable, alors j'ai trouvé assez difficile de lever la main et d'envoyer ce gosse à la mort sans en discuter auparavant.
Et on va en discuter pendant longtemps. Alors il faut savoir que 12 hommes en colère a été tourné en 21 jours seulement, 340 000 dollars de budget. C'était pas grand chose, hein, même à l'époque. Et pour préparer ses comédiens au tournage, Lumet les a enfermés dans une pièce pendant plusieurs jours, sans caméra, pour qu'ils discutent, qu'ils apprennent à défendre leur point de vue. Lors de la sortie, le film n'a pas connu un franc succès, boudé par les Oscars notamment. Il a fallu attendre 2005 pour que Sidney Lumet reçoive un Oscar d'honneur.
Dans un tout autre style, un film français, film de François Ozon, 8 femmes.
Avec ce casting de rêve, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuel Béart, Fanny Ardant, pour ne citer qu'elle, on est dans les années 50, dans une belle demeure de la campagne française qui prépare Noël, et le maître de maison est assassiné. Commence alors une longue journée d'enquête parmi les 8 femmes de la maison qui est coupable. Enquête en musique, extrait avec Virginie Ledoyen et Ludivine Sagnier. Qui avait reçu l'Ours d'argent à Berlin pour, je cite, une contribution artistique exceptionnelle, et c'est vrai, mais il avait perdu dans les 12 catégories des Césars dans lesquelles il était nommé. Si, vous savez, ça arrive souvent, hein, tous les ans, comme s'il y a des films un peu qui partent favoris, puis finalement, ils n'ont rien. Il faut dire en plus qu'Ozon a toujours été boudé par les Césars.
Et vous terminez, Mathieu Charrier, par le maître du huis clos, Monsieur Hitchcock.
Et oui, j'aurais pu vous parler du formidable Fenêtre sur cour, mais je préfère vous conseiller La Corde avec James Stewart, l'histoire de 2 étudiants un soir dans un appartement new-yorkais qui étrangle un de leurs camarades, s'appelait David, avec une corde, d'où le titre. En fait, il voulait appliquer une théorie d'un de leurs professeurs selon laquelle un être supérieur a le droit de tuer un être inférieur. Et dans la lignée, c'est ça qui est génial, ils vont convier à un dîner, le soir même, la famille et la victime. leur professeur également, la famille de la victime et leur professeur qui se retrouvent donc dans cette pièce. Alors, au-delà du huis clos, la corde est aussi une performance technique, hein, parce qu'il est construit comme un seul et unique plan séquence, un peu comme 1917 dont on a parlé récemment, même si à l'époque les bobines pouvaient enregistrer que 10 minutes, donc il a fallu 8 séquences de 10 minutes en réalité avec des raccords qu'Hitchcock a tenté de masquer. C'est vraiment un film incroyable, ça s'appelle La Corde.
Merci beaucoup Mathieu Charrier, à très très vite. Merci à tous, Culture Média c'est terminé, mais on se retrouve demain à 9h30, nous serons avec Laurence Bobillet, c'est la directrice de l'unité des émissions religieuses de France Télévisions pour la nuit du Ramadan sur France 2. Et puis l'humoriste Christophe Alévèque, qui fait un truc assez dingue, il va enregistrer demain seul et sans public au Théâtre du Rond-Point sa nouvelle revue de presse, le titre 19 mars, 19 mai, Le Trou Noir. Tout de suite, Andrew Manu.